Lecture du texte du psaume 137, versets 1 à 6, version NBS. Près des fleuves de Babylone, là-bas, nous étions assis, et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos lyres. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos bourreaux de la joie. Chantez-nous des chants de Sion. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne mets pas Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Ce psaume est assez original dans l'ensemble du livre. C'est un psaume à résonance historique. L'auteur y rappelle un épisode douloureux de l'histoire d'Israël, l'exil en Babylonie. En 722 avant Jésus-Christ, les 10 tribus d'Israël, qu'on appelait aussi le royaume du Nord, sont déportées à Babylone. En -587, c'est au tour de Juda d'être vaincu et de voir une grande partie de sa population déportée. Le livre de Daniel nous en parle bien. À cette occasion, le temple de Salomon est détruit, les objets précieux du culte dérobés et les murailles de Jérusalem détruites. C'est le symbole visible d'une volonté d'anéantissement complet des royaumes d'Israël par Nabuchodonosor. L'exil sera levé en -538 par un décret de Cyrus qui permettra le retour des déportés, au moins en partie. Donc, un minimum de 50 ans loin du foyer de la religion juive, puisque le culte était centralisé à Jérusalem. Les versets 1 et 2 nous parlent de la tristesse des Juifs en exil, de leur incapacité à chanter et à être joyeux. Les lyres, ou les sitars, ou les guitares, même dans certaines versions, sont inutiles, accrochés aux branches des arbres. Leurs vainqueurs voudraient les entendre chanter et jouer, car leurs chants sont beaux et très réputés. Mais la réponse du verset 4 est très claire. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Surgit alors le cri du cœur, devenu une des devises du juif de la diaspora au fil des siècles, répété partout et en tout temps dans le monde. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie. Cette formule, typiquement juive, signifie l'importance de ne pas oublier afin de ne pas être comme celui qui a perdu l'usage de sa main droite. L'éloignement ne doit pas se traduire en oubli, mais au contraire en culte de la mémoire. Le juif, comme le chrétien, est un homme de mémoire. Jérusalem, c'est le lieu du rassemblement des croyants, où chaque juif devait monter une fois par an au moins. Nous dirions pour nous que c'est l'église ou le temple. Nous vivons une période inédite d'éloignement de la maison du culte et de la prière. C'est un exil sanitaire nécessaire. Mais sans doute pouvons-nous, chez nous, dire en cœur le verset 1 du psaume. Près des fleuves de Babylone, là-bas, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. L'église locale me manque, comme elle vous manque sans doute. Nous pouvons ne pas avoir le cœur à chanter, souffrir de l'isolement, d'une forme de solitude, nous sentir comme en prison. C'est le moment de faire une double expérience qui nous fera grandir dans la foi. La première est celle de chérir la mémoire de notre communauté. C'est quand l'Église n'est plus accessible que nous pouvons mesurer à quel point nous y sommes attachés et à quel point elle est utile et nécessaire à notre vie spirituelle. C'est peut-être l'occasion de réfléchir, chacun pour notre part, aux raisons pour lesquelles elle nous manque. Sont-ce les prédications de notre pasteur ou de notre prêtre? Les rencontres de prière, la scène partagée et le culte dominical, toutes les activités diverses que ce lieu et cette communauté nous offrent. Est-ce parce que nous y rencontrons nos frères et nos sœurs? Est-ce parce que nous aimons l'ambiance? Pensons aussi à ce que nous y apportons et à ce que nous pourrions y apporter. N'avons-nous pas parfois plus pris que donné? Ne voulons-nous pas partager tel talent ou telle idée? Si nous répétons chaque jour « Si je t'oublie, Église de Pessac », alors nous serons comme les enfants d'Israël, quand ils revinrent d'exil, capables de reconstruire, agrandir et vivre un temps de réveil spirituel. La seconde expérience nous fait passer du souci local de l'Église de Pessac au souci mondial de l'Église universelle, ou catholique dans son sens exact originel du terme, Église universelle du Christ. Pendant quelques semaines, il nous est donné de vivre un peu de la vie de nos frères et sœurs persécutés, qui ne peuvent pas se réunir au grand jour et sont contraints souvent à l'isolement. Bien sûr, ils doivent en plus subir la surveillance policière, les dénonciations et les calomnies au péril de leur vie. Je suis persuadé que ce temps particulier du confinement est une occasion formidable de comprendre ce que vivent ou ont vécu les chrétiens d'Orient, chassés de leur maison, interdits de culte, maltraités. Ce que vivent aussi au quotidien les chrétiens du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh ou de la Chine, pour ne citer que ces pays, soumis à l'arbitraire du pouvoir, à la clandestinité, mais aussi au bénéfice de la solidarité fraternelle souterraine. Mettons à profit ces semaines pour penser à ceux dont la vie habituelle est celle-ci. Portons-les quotidiennement devant Dieu par nos prières. Allons sur Internet chercher des renseignements plus complets sur leur sort. Bref, aimons en parole et en acte nos frères persécutés. Alors, nous pourrons employer, quand nous reparlerons plus tard de ces semaines, l'imparfait du psalmiste et mesurer notre bonheur d'avoir la liberté du culte et d'appartenir à une église locale. Nous aurons gravé dans nos cœurs le sort des chrétiens persécutés et nous ne les oublierons jamais, comme nous saurons que l'église est la bénédiction du croyant en tant que réunion de fidèles. Alors oui, merci, mon Dieu, de ce temps d'épreuve. Prions. Père céleste, nous nous tournons vers toi, maintenant, pour méditer ce que nous avons entendu et le faire nôtre. Seigneur, nous sommes les uns et les autres tous éloignés temporairement de nos rassemblements, de nos cérémonies, de nos rencontres fraternelles, de toutes ces activités que nous tournons aussi vers les autres. Notre âme peut être affligée et pleurée, comme le dit le psaume, mais nous savons que c'est temporaire et que bientôt nous retrouverons la liberté d'aller, de venir et d'agir. Nous te demandons, mon Dieu, de nous permettre de mettre à profit ces jours où nous sommes contraints de prendre le temps, parce qu'il faut effectivement que l'on nous y contraigne pour que parfois nous prenions le temps. Alors mon Dieu, nous voulons voir comme une bénédiction ces jours où nous avons le temps de nous tourner vers toi, nous avons le temps de méditer, de laisser l'Esprit Saint agir en nous. Fais-nous réaliser à quel point l'Église vivante, l'Église des frères et des sœurs, des serviteurs, des servantes, et de tous ceux que tu as appelés, combien cette Église est agréable, utile, combien elle nous est nécessaire, combien nous l'aimons au fond de notre cœur. Et permets-nous de réaliser ce que nous pouvons faire encore plus dans cette Église, pour nos frères, pour nos sœurs et pour tous les hommes et toutes les femmes. Permets-nous aussi de saisir ce que vivent nos frères et sœurs persécutés, persécutés parce qu'ils portent la croix de Jésus. Donne-nous de ressentir un peu dans notre chair cet isolement, cette solitude, afin que nous puissions les porter avec vérité devant toi pour que tu les soutiennes et que tu les aides. Permets-nous aussi de nous engager financièrement, matériellement, à les soutenir, à les aider, à leur permettre de retrouver une vie normale dans des territoires où ils ont été chassés et maltraités. Bénis ceux qui sont sous des régimes qui les rendent malheureux et qui les torturent, Étends ta grâce sur eux et permets-nous de les porter devant ton trône par la prière chaque jour. Pour cela, mon Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment de retrait où nous pouvons enfin songer à ce qui est essentiel. Amen.